Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-10 du 5 février sur Radio FM+. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Gilles Favier. Gilles Favier, vous êtes un photographe documentaire. Vous avez travaillé 30 ans avec l'agence Vue et vous avez collaboré avec Libération. Avec votre appareil photo, vous avez travaillé sur de nombreux sujets dont les quartiers nord de Marseille, le monde ouvrier à Saint-Étienne et le tournage du film La Haine. Vous avez également sillonné les quatre coins du monde dont le Chili et le Bénin avec votre appareil photo. On verra également que vous êtes le fondateur du festival Images Singulières à 7. Et avant de commencer, sachez que j'ai eu le contact de Gilles grâce à sa sœur Colette qui fut mon blablacar l'histoire d'une soirée. Quand elle m'a parlé de son frère, j'ai tout de suite trouvé son profil passionnant. Donc Gilles, on va commencer par votre parcours. Comme dit dans le début de ce 10-10, vous avez été le membre de l'agence Vue durant 30 ans et collaborateur du journal Libération. Donc Gilles, durant années, quel a été votre rôle? Sur quoi vous êtes intervenu?
Bonjour à tous d'abord et puis merci à Colette, ma sœur. Bienveillante, comme d'habitude. C'est difficile de résumer toute une vie de photographe comme ça, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que mes intentions de départ, c'était des intentions comme quelqu'un de 20 ans de voyager, de partir loin et très vite, je me suis rendu compte que partir, c'était bien, mais il fallait revenir vite parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Donc, finalement, je me suis dit, il faut chercher un travail qui puisse permettre à la fois de voyager, de gagner sa vie correctement. Et la photographie m'a paru un bon moyen. Et il y avait beaucoup de romantisme un petit peu dans mon idée de départ. Très vite, j'ai été confronté à une réalité un peu plus dure. Pendant quelques années, j'ai fait des conflits. J'ai commencé par un conflit qui était un petit peu méconnu à l'époque en Irlande du Nord, à Belfast, où j'ai passé de longues années, où j'ai vraiment préparé un petit peu le terrain à ce que je suis devenu plus tard, c'est-à-dire un photographe un peu moins branché sur une actualité brutale, mais un peu plus patient, un peu plus attentif aux gens que je rencontre. Voilà. Et ça m'a emmené un petit peu, effectivement, comme vous l'avez dit, dans tous les coins du monde. Voilà.
Et qu'est-ce que vous retenez? Oui, dites-moi.
Pardon. Mais la distance qu'on met, en fait, entre l'endroit où l'on est et l'endroit où on va travailler quand on est photographe, désormais, ça a peu d'importance. Hein. Sans doute, les gens qui voyagent le plus actuellement, ce sont les retraités. Hein, et ils sont toujours quelque part au Vietnam, en Birmanie, tout ça. Et les photographes voyagent de moins en moins parce que il se trouve que les photographes dans les pays concernés, avec l'avènement d'Internet, du numérique, photographient aussi et nous envoient leurs propres images, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Voilà. Donc les choses ont bien évolué.
Et qu'est-ce que on reviendra sur le sujet de l'évolution de la photographie un peu après, mais ma question c'est qu'est-ce que vous retenez de cette période à voyager et couvrir des conflits?
C'était une période magnifique de ma vie. Simplement, je me suis un petit peu oublié en tant que jeune garçon de 20 ans, c'est-à-dire que vraiment, c'est un métier qui demande beaucoup de concessions, c'est-à-dire que on ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on revient, On doit être prêt à partir le lendemain. J'ai des souvenirs un petit peu quand j'ai une famille qui s'est un petit peu constituée, où j'ai manqué des événements importants familiaux, comme je sais pas la première fête d'école de mon premier fils, des choses comme ça, où l'agence m'appelait, il fallait partir FISA, ou des vacances qui sont interrompues, des choses comme ça. Donc c'est pas un métier facile en ce sens-là, et il y a une grande instabilité aussi financière, c'est-à-dire on peut gagner beaucoup d'argent et après on n'en gagne plus pendant plusieurs mois. Voilà, donc mais ça, en tant qu'homme, ça m'a beaucoup appris aussi à... j'étais quelqu'un d'assez timide au départ, ça m'a beaucoup appris à aller au contact des autres, à rencontrer des gens, même dans la rue, voilà, parce qu'il y a une nécessité en fait quand on part. On engage de l'argent, les gens qui nous mandatent engagent de l'argent aussi, donc il y a une nécessité de ramener un travail intéressant. Donc c'est une grosse pression, mais c'est tout à fait passionnant. Voilà. Même si parfois j'aurais aimé faire le même métier sans avoir à faire les photos. Oui. C'est-à-dire me promener, être payé et rencontrer des gens.
Ce voilà. serait magnifique, bon. Ce serait incroyable. Voilà. on va parler plus en profondeur de votre art, de la photographie. Donc, sur quoi portent vos photographies ?
Alors, en tant qu'homme, j'ai évolué, hein, et ma photographie, elle a suivi un petit peu cette évolution, petit à petit, d'une photo un petit peu de rue au départ, où on volait aussi un petit peu des images dans la rue, on marchait beaucoup, petit à petit, s'est installé... une forme de photographie plus intime. J'ai changé de matériel, j'ai un matériel beaucoup plus gros maintenant, qui est presque un matériel de studio, donc ça impose un rythme très différent aussi à la façon de photographier. Donc il y a beaucoup de portraits maintenant, beaucoup de et s'y ajoutent des textes, et tout ça est... Enfin, j'ai du mal à comprendre les gens qui photographient à 20 ans de la même façon qu'à 60. Mmh. Moi, ça change selon mes humeurs, ça change avec ma façon d'être. Voilà, même je photographie parfois au téléphone aussi en ce moment. Je bats ma coupe parce que je me dis que c'est tellement facile avec un téléphone qu'on s'embête avec un gros appareil. Mmh. Donc je mélange un petit peu toutes ces... L'essentiel étant l'âme un petit peu du matériel qu'on ramène, voilà. Et puis les situations, moi j'aime bien décortiquer quand une situation me paraît complexe, j'aime bien me dire que je vais arriver à la décortiquer, hein, comme d'aller travailler dans une banlieue très difficile ou choses comme ça, et finalement, à force de patience, de parler aux gens, de se faire un petit peu oublier aussi parfois, voilà, on arrive à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire donner son opinion, parce que c'est l'objectivité. Pour moi, ça n'existe pas vraiment. Donc, donner son opinion sur une situation donnée, ou un problème social, ou... Mmh. Les conflits, j'en fais moins maintenant parce que ça, c'est devenu impossible à suivre. Mais voilà, en tous les cas, c'est à ma façon de décortiquer le monde.
Et quel message vous essayez de faire passer à travers vos photographies ?
Je sais pas, moi j'aime bien quand les gens, quand j'envoie les photos aux gens, déjà qui sont, j'essaie de tenir mes promesses quand je dis que je vais envoyer des photos, j'essaie de les envoyer toujours parce que c'est important. Des gens qu'on a croisés subrepticement, qui n'ont jamais été photographiés, ils tiennent à... C'est facile de promettre, mais souvent quand on est rentré, on oublie d'envoyer les photos. Donc ça, je fais vraiment attention d'envoyer les images. Et puis après... un message, c'est un grand mot, message. Au début, je pensais que ma photographie pouvait aider les gens, changer des choses, mais je suis plus modeste que ça maintenant. Si déjà elles permettent d'engager quand je les montre, une conversation, si les gens sont touchés par mes images, je pense qu'il faut être modeste, ça me suffit. Voilà.
Vous avez des sources d'inspiration ?
Ah oui, il y a des photographes. Il y a des photographes qui m'ont, que j'ai rencontrés, qui étaient vivants, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Bon, ma source d'inspiration première, c'était Diane Arbus, cette photographe américaine qu'on connaît un peu parce qu'il y a eu un film qui a été fait récemment, un film de fiction sur elle. Elle, c'est vraiment dans le style. Je photographie avec le même appareil qu'elle. Maintenant, et dans le style, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Elle s'est beaucoup intéressée jusqu'à se noyer dedans, aux marges de la société américaine. Quand je dis les marges, c'était dans les années 70. Donc, ça pouvait être les personnes de petite taille, les transsexuels, toute cette faune qui est à New York. Ça l'a beaucoup inspiré. Et avec un style photographique très très direct, ça c'est vraiment une œuvre tout à fait majeure et passionnante. Et puis il y a un autre photographe avec lequel j'ai eu la chance de faire deux ou trois résidences, puis qu'on avait invité à Sète au festival Image Singulière, c'est Anders Petersen, qui est un photographe suédois qui est vivant toujours, qui a 82 ou 83 ans maintenant, qui lui est un peu le pape de ce qu'on appelle la nouvelle photographie sociale, c'est-à-dire que le travail majeur qu'il a fait connaître, c'est quand il était jeune, il a passé, je crois, un an et demi dans un café à Hambourg, qui était un café où se réunissait, c'est un café de la rue Barré, pour les connaisseurs de Hambourg, c'est une rue où il y a toute la vie nocturne, la prostitution et tout ça. Et il a vécu stricto sensu dans le café pendant un an et demi, en dormant dans le café et tout ça. Et donc, son œuvre, son univers était vraiment très limité. Et l'œuvre qui sort de ça, c'est une œuvre extrêmement intime, extrêmement riche et extrêmement attachante. Et il y a une photo célèbre de cette série qui est la couverture de, je crois, du disque le plus connu de Tom Waits, où on voit un type qui ressemble beaucoup à Tom Waits. Tout le monde pense que c'est Tom Waits, mais c'est un marin de Hambourg qui est un peu écroulé dans les bras d'une femme, voilà. Et il a une encre tatouée sur le bras. Et Anders, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup apporté sur l'énergie qu'on doit mettre dans ce travail. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'étais à fond. Et lui m'a appris que non, il y avait encore des limites à repousser dans l'intensité qu'on pouvait mettre dans la rencontre avec les gens qu'on photographie. Et pour le coup, mon travail a pris une direction plus intime, voilà, plus profonde. Et il y en a d'autres, hein. Robert Frank, le fameux livre sur les États-Unis de Robert Frank dans les années 50. Il y a des gens comme ça qui ont pas forcément une œuvre dithyrambique, mais qui ont laissé des opus comme ça vraiment marquants, quoi. En tous les cas, pour moi.
Bah merci. On va juste continuer sur votre art, votre métier à proprement parler. Vous avez travaillé sur différents projets, dont les quartiers nord, et notamment avec Philippe Pujol, journaliste et lauréat du prix Albert Londres en 2014. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce travail en particulier et sur votre travail sur le terrain ?
Alors, Philippe Pujol, je l'ai rencontré. En fait, mon travail était déjà fini, mais c'est lui qui a posé un texte magnifique, d'ailleurs, sur le livre que j'ai fait sur mon expérience dans les quartiers nord de Marseille. En fait, c'est ancien. J'étais un jeune photographe encore. J'avais 30 ans à peine. Il y a eu quatre ou cinq missions qui ont été lancées par Jack Lang, qui était encore ministre de la Culture à l'époque. Quatre cartes blanches données à, on était quatre ou cinq, cinq peut-être cinq cartes blanches donné à 5 photographes pour décortiquer à l'époque ce qu'on appelait les quartiers sensibles. Et comme moi j'étais vraiment jeune dans tous les photographes, on m'a pas laissé le choix du lieu. Moi, on m'a dit toi tu vas à Marseille. J'habitais Paris à l'époque. Et je me suis confronté pendant un an et demi au quartier nord de Marseille. Et avec l'idée, j'ai expérimenté un petit peu au début plusieurs cités. C'était des échecs parce que je me suis fait repousser assez violemment, entre autres de Félix Piat, qui est une immense cité où j'ai eu des menaces un petit peu précises. Donc je me suis dit il faut trouver un autre lieu. Et finalement, je me suis installé dans un quartier à Saint-Jérôme, un quartier nord, qui s'appelle La Renaude, qui est un petit quartier qui avait l'intérêt pour moi d'être fermé, c'est-à-dire qu'il y avait des murs autour. Il était bordé par un cimetière et donc on pouvait l'identifier géographiquement, sa identité. Il n'était pas ouvert aux 80, donc il y avait moins de turnover que dans les autres quartiers. Et c'était une population... on peut dire, grosso modo, moitié maghrébine, moitié gitane. Voilà. Et là, c'est là où j'ai appris justement la patience qu'il faut pour être un vrai documentariste, c'est-à-dire qu'on n'attend rien de précis, mais on attend et il finit toujours par arriver quelque chose. C'est un petit peu l'inverse de journal télévisé où quand on part, il faut ramener quelque chose pour le soir et forcément, on provoque les choses. Et là, dans une optique documentaire, on attend. Donc, il faut être très patient. Il faut voilà. Et là, dans cette cité, ça a commencé. Les cadors, ils m'ont jaugé, ils m'ont jugé, ils m'ont. C'était assez rude avec eux. Mais le vrai contact s'est fait avec les femmes d'abord. Et donc, j'ai commencé à photographier les femmes, les enfants, etc. Et puis après, les cadors, les hommes. Sont venus et m'ont dit ouais mais tu photographies les femmes et nous pourquoi tu nous photographies pas. Et là je me suis dit tiens ça y est ça commence à prendre forme et après je suis devenu un personnage de la cité, je suis devenu le photographe de la cité. Donc il y avait des règles qu'on avait établies avec les gens qui dirigeait un petit peu la cité. Voilà, je photographiais rien qui pouvait les envoyer en prison, des choses comme ça, parce que il se passait des choses, des voitures volées, des choses comme ça, qui pour moi n'étaient pas l'objet de mon travail. L'objet de mon travail, c'était de voir comment vivaient ces gens-là, intramuros, dans leur cité, et comment ils développaient en étant vraiment des exclus, hein, parce que ils étaient. Il faut lire un petit peu la sociologie, comment autour des quartiers difficiles, on parle de ces quartiers-là avec une grande part de fantasme. Comment ces gens-là, finalement, entre eux, développaient des solidarités et survivaient dans des conditions extrêmement difficiles et souvent un petit peu hors la loi. Voiture volée, moi, c'était pas ma priorité, c'était de voir ces gens-là et de démystifier un petit peu tout ce qu'on disait sur ces quartiers-là. Et c'est un travail que je pourrais pas refaire maintenant parce qu'il était vraiment j'ai mis beaucoup de cœur et c'était vraiment difficile parce que parfois je dormais dans la cité, mais parfois je dormais à l'extérieur. Quand j'arrivais le matin, je savais pas sur quoi j'allais tomber, si j'allais pouvoir faire une photo. Certains jours, on me disait non, aujourd'hui tu fais pas de photo. Il s'est passé ça, il faut pas faire de photo. Enfin, il y avait plein de choses à respecter. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais une bourse conséquente qui m'a permis d'aller au bout de ce projet. Voilà.
Okay.
Avec une grosse exposition ensuite à Paris, à la Villette, et ça a eu beaucoup de conséquences sur la suite de ma carrière. Voilà.
Ah, très bien. On va passer à une petite pause musicale tout de suite. On donnera le nom après du titre, mais je pense que tout le monde l'aura reconnu. Donc tout de suite, la pause musicale.
Avec plaisir.
time, but my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon, cats are prowling on their beat, springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back.
Vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans ce 10-10 consacré à Gilles Favier, photographe documentaire. Gilles Favier, on l'a vu, vous avez une carrière très variée, mais vous restez toujours dans le monde de la photographie. C'est aussi dans cet univers que vous fondez en 2008 le festival Images Singulières à 7, festival de photographie documentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots ?
L'idée de départ, c'est qu'on ne trouvait pas, avec Valérie, ma compagne, quand on a créé Images Singulières, on ne trouvait pas dans les autres festivals un petit peu cette dynamique documentaire qui nous intéressait, c'est-à-dire des travaux faits sur un temps long, sur des projets de société, tout ça. Donc on s'est dit, il y a un créneau, Perpignan, c'est vraiment l'actualité photojournalistique, Arles, c'est vraiment une photo un peu plus arty. Nous, on a vu une petite brèche, on s'est glissé là-dedans et c'était 15 années à 7, on a passé 16 je crois, 16 années magnifiques d'un festival qui est devenu petit à petit de plus en plus gros et qui nous a un petit peu submergés à la fin parce que plus c'est gros, plus il faut trouver de l'argent et voilà. Donc, on a décidé d'y mettre un terme en 2023 je crois et de recommencer un nouveau projet qui s'appelle toujours Images Singulières. Mais pour le coup, Images Singulières en Cévennes, dans un petit village chevenol, avec un projet beaucoup plus modeste, mais peut-être plus exclusif. Voilà. On est en train de retaper un lieu qui sera prêt à l'automne et qui sera un lieu d'accueil documentaire, mais pas seulement de photographie, aussi de cinéastes, d'écrivains, de philosophes. Voilà. C'est un lieu où on va inviter des gens qui vont tenter de nous apporter des réponses sur l'état du monde qui nous préoccupe tous. Voilà.
Est-ce que c'est ça
reste encore une aventure magnifique, mais voilà.
Est-ce que c'est ça les valeurs que vous cherchez à transmettre au sein de ce festival, au sein d'Images Singulières et au sein de Toujours Images Singulières ? C'est bien ça, hein, Toujours Images Singulières.
Oui, c'est partagé, quoi. C'est-à-dire, je me rends compte que quand je disais tout à l'heure qu'il faut être modeste. Sur ce qu'on peut apporter, même si on met du cœur à son travail en tant que photographe. Partager les expériences avec des gens qui ont des itinéraires particuliers et qui sont des gens souvent très modestes. Mais il y a des gens que j'adorerais Même des gens qui font de la bande dessinée, Joe Sacco par exemple, fait de la bande dessinée documentaire, j'adorerais l'inviter dans les semaines. Nous, on n'est pas timide quand il s'agit d'aller chercher des pointures et des choses comme ça. Je pense que c'est dans un petit village qui s'appelle Omessas, et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on parlera d'Omessas comme d'un lieu, comme ça, d'un petit lieu, mais où se passent des choses voilà, assez exclusives. C'est un petit peu notre projet. Et puis moi, je continue à travailler aussi à côté ma photographie. Ouais, j'ai plein de projets. Voilà. C'est les photographes, ça ne prend pas de retraite, quoi.
C'est une passion.
Quand on est photographe, oui, c'est plus qu'une passion. C'est une façon de vivre sa vie, quoi. Voilà.
Vous avez eu donc de nombreuses activités, mais aujourd'hui, donc, est-ce que vous vous considérez comme photographe de documentaire, organisateur de festival? Comment vous vous considérez?
Moi, oui, je suis avant tout photographe. Hein. Je reste, c'est mon métier, mais je sens les limites de la photographie, c'est-à-dire par exemple l'écriture est quelque chose qui est vraiment un complément nécessaire parfois à la photographie, voilà. On sort d'une rencontre avec quelqu'un qui vous a passionné, on peut faire la plus belle photographie du monde, il manquera toujours c'est pas forcément quelqu'un de connu, mais et souvent les gens modestes ont une façon d'exprimer leur sensibilité avec des mots, donc j'aime bien, maintenant j'écris sous mes photos des petites phrases que les gens me donnent. Et je trouve que c'est un super complément. C'est un objet qui dépasse la photographie et qui repousse ses limites, voilà. Et puis, mais chacun voit et appréhende la photographie comme il l'entend. Je ne juge pas ceux qui pensent que voilà que dans une photographie on peut tout dire. Moi, je pense qu'elle est, elle a ses limites maintenant, mais c'est personnel. Ouais.
Il nous reste 8 minutes, mais j'aimerais quand même parler de l'évolution de la photographie. Donc, j'imagine que dans ces festivals, au final, vous êtes en contact avec de jeunes photographes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre le monde de la photo d'hier et d'aujourd'hui ?
Alors oui, il y a une grosse, grosse différence. D'abord, c'est la photographie, elle devient de plus en plus rare parce que la photographie, c'est au départ l'image numérique. On peut pas la considérer comme de la photographie en fait, parce que la photographie, stricto sensu, c'est un procédé chimique. Hein, en fait, c'est voilà, on a un film, on le développe et il est unique. La photographie digitale, numérique, elle est multiple, c'est-à-dire que vous allez faire une photo, vous allez en faire 2, vous allez en faire 3, et ce sont toutes les mêmes photos. En numérique, à chaque fois, c'est en argentique, à chaque fois, c'est une photographie différente. Donc, il faut faire attention aux mots. Je trouve que le numérique, ça a amené une simplicité de photographie. On voit qu'avec un téléphone, on peut faire une très bonne photo. Pour autant, est-ce que ça donne toutes les solutions? Je ne suis pas sûr. Donc, ce que je reproche à la photographie actuelle, c'est qu'on fait trop de photographies. Ça, c'est clair. Il faudrait, avec les outils modernes qu'on a, photographier comme avec un appareil argentique, c'est-à-dire penser que chaque fois qu'on appuie, ça coûte, et on ferait moins de photos et ça serait un peu plus analytique comme façon d'appréhender le métier. Après, les jeunes photographes sont beaucoup intelligents au sens que ils savent beaucoup mieux écrire que nous. À l'époque, on était un petit peu bourrin, quoi. C'est-à-dire qu'on partait avec notre appareil, on ramenait des photos. Maintenant, on a des jeunes gens qui sont souvent en échec scolaire, qui ont fait un master 2 de sociologie, des choses comme ça, et qui trouvent que la photographie, finalement, est un débouché à leurs études, parce que c'est un métier ouvert. Hein. On achète un appareil, on est photographe. On n'a pas besoin de diplôme. Donc, il y a toute une génération de jeunes gens qui sont extrêmement brillants sur un plan à la fois de l'analyse et de la préparation de leur sujet. Et peut-être un peu moins au point sur le plan de la photographie. Donc, ça donne, en tous les cas, il y a énormément de propositions. Moi, même si je me suis mis un petit peu en dehors du jeu, je reçois beaucoup de propositions de jeunes photographes par mail. Il y a beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent peu. Mais c'est un mélange. C'est beaucoup plus riche qu'avant, qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'avant, voilà, la photographie elle était souvent en noir et blanc, en argentique, pur et dur. Ouais, ce que je veux dire, c'est que souvent, la difficulté technique qu'on avait à l'époque, finalement, c'était pas tellement un handicap, c'était plus, ça nous ralentissait dans notre façon de travailler, et finalement, ça nous permettait peut-être de réfléchir un peu plus au moment où on photographiait. C'est-à-dire que maintenant, on a une telle facilité à faire des images qui sont magnifiques. Que moi j'aime bien les choses qui ont des défauts chez les gens. Ce qui me plaît, c'est les cicatrices, c'est les petits trucs qui me racontent des histoires. L'image maintenant est souvent tellement belle et tellement parfaite que finalement je trouve qu'elle peut perdre de sa saveur tellement elle est parfaite. Voilà. Donc je sais pas si je l'exprime très bien, mais c'est un petit peu ce défaut que je donnerais à la nouvelle photographie. Et puis le fait que, à mon époque, faire un livre, c'était vraiment arriver au bout d'un chemin, d'une histoire et tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de livres photos qui finalement sont un peu trop précoces dans une carrière, je pense. Toutes ces facilités qu'on a à faire les choses, je suis pas sûr que ça amène forcément de la qualité. Mais c'est pas une critique sur ce qui se passe. Le monde change. Et la photographie doit changer avec, mais voilà, je sais pas, je marque bout sur ce que je sais faire. J'ai le même appareil qu'il y a 40 ans et je peux pas m'opposer à ce qui se passe maintenant parce que c'est voilà, je suis pas dans le jeu. Je reste dans ma façon de faire à moi parce que c'est la seule que je peux défendre, en fait. Voilà.
Eh ben merci. Je vais devoir vous couper, puisqu'on arrive à la fin de ce 10-10, en présence du photographe, en présence du photographe Gilles Favier. Merci Gilles pour avoir accepté ma demande. Je vous souhaite de continuer votre parcours qui me semble vraiment intéressant et qui, je l'espère, a plu aux auditeurs. On se retrouve prochainement sur Radio FM+.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.